près d'un quart de la population universitaire ne correspond pas du tout à l'image en qu'on s'en fait.
Ah non, pas du tout.
Dans le fond, on imagine souvent une vie étudiante qui est rythmée uniquement par les dates de remise de travaux, les lectures à la bibliothèque, puis les pauses à la cafétéria.
Ouais, la vision classique, un peu romantique, tu sais.
C'est ça, très linéaire. Mais la réalité statistique, elle est complètement différente. Il y a une proportion énorme de cette population-là qui doit changer des couches, payer une hypothèque, s'inquiéter de la hausse du coût de l'épicerie.
Ou gérer les rendez-vous d'un parent vieillissant, ouais.
Exactement. Et tout ça en essayant de décrocher un diplôme. Fait que bienvenue dans cette analyse approfondie où on va plonger dans une dynamique super complexe et souvent invisible, soit la conciliation famille-travail-études dans les établissements d'enseignement supérieur au Québec.
Et honnêtement, c'est un enjeu fondamental. C'est quelque chose qui redéfinit complètement ce que ça veut dire avoir accès à l'éducation aujourd'hui.
Absolument. Et pour décortiquer ça, notre plongée d'aujourd'hui, elle s'appuie sur le rapport de recherche de la professeure Diane-Gabrielle Tremblay et Valérie Harvey.
De l'Université TELUC, oui. Un rapport très exhaustif qui a été publié en avril 2026.
Et c'est financé par le ministère de l'Enseignement supérieur. C'est quand même le troisième rapport d'un gros projet gouvernemental, n'est-ce pas?
Ouais. Exactement. C'est un projet qui s'étire de 2023 à 2027. Et ce qui est fascinant avec ce document-là, c'est qu'il refuse de rester dans les stéréotypes.
Ah, ça sort des cadres ordinaires.
Complètement. Ça dresse un portrait super rigoureux, avec des chiffres. Et c'est un portrait qui est parfois dérangeant de ces personnes qui essayent de se former, tout en portant d'énormes responsabilités familiales et financières.
Bon, alors avant de sauter dans les solutions puis les politiques, je pense qu'il faut s'entendre sur les termes.
Ouais, c'est essentiel.
Mais est-ce qu'on entend tout le temps parler de la conciliation travail-famille en entreprise? C'est un grand classique de ressources humaines.
Tout à fait.
Mais là, le rapport ajoute une troisième dimension. On parle de CFTE, conciliation, famille, travail, études. Comment cette variable-là, les études, vient changer la game?
Elle la complexifie de manière exponentielle. Parce que ça ajoute un pôle d'exigence majeur qui, contrairement à une job normale, n'offre aucune rémunération immédiate.
Ouais, tu travailles fort, mais il n'y a pas de chèque de paie au bout de la semaine pour ça.
C'est exactement ça. Mais ça demande un investissement cognitif et temporel massif. La CFT, dans le fond, c'est jongler avec des études supérieures, un emploi, parce que presque tous ces étudiants-là travaillent pour survivre, et la famille.
Et justement, la notion de famille, elle est plus large.
Oui, le rapport apporte une nuance cruciale là-dessus. Le terme famille, c'est pas juste avoir des enfants. Ça englobe formellement la proche aidance.
C'est-à-dire soutenir un proche adulte
Ouais, que ce soit une incapacité physique, psychologique ou liée au vieillissement.
C'est fou. C'est comme essayer de faire rouler un système d'exploitation super gourmand, disons un logiciel d'architecture à 16 gigaoctets de mémoire vive, sur un ordi qui en a juste 8. Les applications en arrière-plan, genre la job pour payer le loyer et la charge mentale familiale, elles siphonnent toute la mémoire, fait que l'application académique est ralentie, elle gèle, ou pire, le système plante.
Et le système qui plante, c'est l'abandon scolaire. C'est une super métaphore. Et pour bien comprendre à quel point le système plante souvent, il faut regarder les chiffres du rapport.
Vas-y, je suis prête pour les statistiques.
Le rapport utilise deux grandes sources. Le projet ICOP, pour le réseau de l'Université du Québec, et ECOBES, pour les cégeps. Et à l'université, les données de 2022 montrent que 24% de la population étudiante a des responsabilités familiales.
Attends, 24%, 1 sur 4.
Oui, un étudiant sur 4, c'est énorme.
C'est pas marginal du tout. C'est carrément structurel.
Exactement. Et au cégep, le chiffre global a l'air plus bas, autour de 4,3%. Mais quand on regarde le profil sociologique, c'est là que ça frappe.
Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces parents-là, au cégep?
91% d'entre eux ont plus de 24 ans. Et presque la moitié, 45,6%, sont des étudiants de première génération.
Ah, donc les premiers de leur famille à faire des études supérieures.
Voilà. Et le point le plus névralgique du rapport... 76,1% de ces parents étudiants, ce sont des mères. Et très souvent, des mères monoparentales.
Ouf. Et il y a une autre statistique qui m'a fait bondir en lisant l'analyse, c'est que 61,7% de ces parents-là travaillent déjà au moment de leur admission.
Comparativement à genre 12% pour les personnes sans enfants. Ouais.
C'est ça. Si ces personnes-là arrivent sur le campus en étant déjà à pleine capacité, avec une job puis des enfants, on s'entend que le système d'enseignement supérieur est limite hostile pour elles.
C'est le cœur de l'argumentaire du rapport. L'environnement traditionnel, il est inadapté. On demande à des adultes surchargés de s'adapter à des horaires rigides pensés pour des jeunes de 18 ans sans obligation.
Et les conséquences doivent être lourdes.
Ah, le prix à payer est colossal. Ce qui est fascinant ici, c'est que la CFTI, c'est pas juste une question de confort. C'est un vrai enjeu de santé mentale, d'égalité homme-femme.
Et le gouvernement le sait, non ?
Oui, le plan d'action sur la santé mentale étudiante 2021-2026 le reconnaît formellement.
Parce que jongler comme ça, ça isole les gens.
Totalement. C'est l'isolement, la stigmatisation, la détresse. Imagine le conflit constant entre un cours obligatoire et l'heure de fermeture de la garderie. La culpabilité.
La tempête parfaite pour le décrochage.
Exactement. Et si on aide ces mères monoparentales à diplômer, on brise le cycle de précarité. C'est un investissement direct.
Bon, alors le constat est clair. C'est un enjeu de société. Mais concrètement, comment les institutions gèrent ça sur le terrain ? Parce que le rapport propose une typologie en trois axes.
Oui, ça montre un peu l'évolution de la maturité des écoles. Le premier axe, c'est le stade, disons, le plus archaïque, les mesures informelles.
C'est quoi ça, l'informel ?
C'est le flou total.
C'est exactement ça. Il n'y a aucune politique écrite, tout est laissé à la discrétion du prof ou de l'aide pédagogique. C'est littéralement du cas par cas.
Fait que si ton enfant est malade avant un examen, tu croises les doigts pour avoir un prof sympa.
Voilà. Tu dois raconter ta vie privée et espérer tomber sur quelqu'un de compréhensif pour avoir un délai.
C'est vraiment l'équivalent d'un menu secret dans un resto.
Ah oui, bonne comparaison. Tu sais, si t'es pas au courant qu'il existe, ou si t'as pas le courage de demander, bah t'y as pas accès. Ça force la personne étudiante à quémander son droit à la réussite à chaque session.
C'est très vrai. L'analogie du menu secret montre bien le problème de pouvoir là-dedans. Un prof peut être super empathique, puis celui d'à côté exige un billet médical officiel ou donne un beau zéro.
C'est zéro équitable.
Et le pire, c'est que sans registre officiel, l'institution navigue à l'aveugle. Elle ne sait même pas combien de parents sont sur son campus.
Bon, fait que le menu secret, ça marche pas pour l'équité. Comment on passe à un niveau supérieur ?
On passe à l'axe 2, les engagements concrets. Là, l'institution sort de l'ombre. Elle décrit ses services sur son site web. Elle affiche la couleur.
Ok, donc on met des règles claires.
Oui, par exemple, des lignes directrices. Le rapport mentionne McGill, qui a été précurseur en 2012 avec ses guidelines, ou encore le cégep de la Gaspésie et des îles en 2023.
Qu'est-ce qu'ils ont fait de spécial en Gaspésie?
Ils ont un code de référence qui tient compte de la géographie. Les défis de CFT sont pas les mêmes quant à des énormes distances à parcourir en région et des problèmes de logement.
C'est super pertinent. Mais bon, ça reste des lignes directrices. L'étape ultime, le troisième axe, c'est quoi?
Ah, ça, c'est l'adoption de politiques officielles. C'est là que ça devient normatif.
Donc, voté par le conseil d'administration.
Exactement. C'est plus une suggestion, c'est un droit, avec des objectifs, des indicateurs, une reddition de comptes. L'Université Laval a été la pionnière en 2019.
Ah oui, Laval, Sherbrooke. Et du côté des cégeps, il y a Sainte-Foy, je crois.
Oui, Sainte-Foy en 2021. Puis là, ça s'accélère. L'UQAT en 2023, l'UDM et l'UQAM en 2024.
Et concrètement, pour la mère qui étudie là, ça change quoi le matin? C'est le fameux statut de parent.
C'est ça, le code payé dans le système. La personne fournit ses preuves une seule fois à l'administration, les profs reçoivent une notification officielle, l'aménagement devient légitime.
Fait que plus besoin de s'expliquer à chaque fois.
Non, fini le quémandage. Et parfois, ça permet d'être considéré à temps plein pour les prêts et bourses, même si on prend moins de crédit.
Oh, ça, c'est énorme pour éviter la faillite personnelle. Mais bon, avoir une politique sur papier, c'est beau. Mais testons ça dans le monde réel. Le nœud de la gare, c'est la garderie.
Allez, service de garde, c'est là que l'analyse est surprenante. On pense souvent qu'il suffit de construire un CPE sur le campus et le problème est réglé.
C'est pas ça la solution miracle.
Non. Le rapport cite l'UQAM. Ils ont 4 CPE affiliés, mais 81% des parents sondés préfèrent un service près de chez eux.
Majorité veut pas la garderie de l'université.
Non. 53% n'ont même pas fait de demande pour ces CPE-là.
Mais en même temps, c'est tellement logique. Transporter un enfant de 2 ans dans le métro à Montréal, à l'heure de pointe, de la banlieue jusqu'au centre-ville. L'énergie que tu dépenses annule le bénéfice d'avoir la place.
Exactement. Le besoin de proximité l'emporte, ce qui force les universités à innover au-delà de la simple bâtisse.
Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre alors? Le rapport parle de projet pilote, non?
Oui. Le projet MSTLUC 2023-2027 a financé des tests très intéressants. Prenons l'UQAT en 2023-2024.
En Abitibi-Témiscamingue.
C'est ça. 42% de leurs étudiants sont parents, souvent à distance. Ils ont organisé des concours de soutien social pour offrir des repas préparés par des traiteurs et des heures de gardiennage.
Pourquoi ça serait à eux de payer l'épicerie des étudiants?
C'est une critique fréquente, c'est vrai. Mais regarde le coût de l'abandon scolaire. Un étudiant épuisé qui décroche, c'est une perte financière pour l'école et une perte massive de main-d'œuvre pour le Québec.
Donc le repas, c'est un investissement?
Totalement. Payer un repas, ça redonne du temps. Un parent qui cuisine pas le mardi, c'est un parent qui peut réviser pour son examen du mercredi. C'est de la bande passante cognitive gagnée.
Vu sous l'angle du retour sur investissement cognitif, c'est brillant. Et il y a eu d'autres projets pilotes?
Oui, le cégep de Sainte-Foy a pris une approche technologique en 2024-2025.
Qu'est-ce qu'ils ont fait?
Ils ont utilisé leurs étudiants en multimédia pour coder une application web de jumelage. Ça connecte les étudiants en éducation à l'enfance qui veulent faire du gardiennage avec les parents étudiants qui ont des besoins ponctuels.
Ah, du pair à pair. Intelligent.
Très. Et ça a permis un ciblage sociologique super fin. En croisant des données confidentielles, ils ont identifié des mères à double ou triple vulnérabilité.
C'est-à-dire?
Des mères monoparentales issues de l'immigration récente ou des Premières Nations. 25 personnes à très haut risque de décrochage.
Et ils ont pu les aider spécifiquement?
Oui, avec des gratuités pour les cuisines collectives, des réductions sur les paniers alimentaires. C'est du sur-mesure pour empêcher qu'elles tombent entre les mailles du filet.
C'est fascinant parce que ça montre que l'environnement global dicte la réussite. C'est pas juste une question de notes. D'ailleurs, le rapport parle des milieux autochtones qui ont compris ça depuis longtemps.
Oui. Si on relie ça au contexte global, le regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec est exemplaire. Le rapport parle de Nutchimit à Sept-Îles, Waskawit-Sitowin à Trois-Rivières et le collège Kiuna.
Et c'est quoi leur philosophie par rapport à nos campus traditionnels?
C'est l'intégration totale. Au lieu de te séparer de ta famille pour étudier, on construit des logements familiaux, des services de garde intégrés, des cuisines communes. L'apprentissage cohabite avec la famille.
Un vrai changement de paradigme. Mais malgré tout ce beau positif, le rapport met le doigt sur un angle mort massif, non? Quelque chose qui est presque ignoré partout.
Oui, l'approche est dense. C'est dramatiquement ignoré par les institutions.
Pourtant, on l'a défini au début. Ça représente combien de personnes?
Entre 3 et 4% de la population étudiante.
Donc des jeunes qui s'occupent d'un parent malade ou des adultes qui soutiennent un conjoint handicapé.
C'est ça. Mais sur le terrain, à part l'UQAM, l'UQAT et McGill, presque aucune politique ne les mentionne. Ils n'existent pas dans les grilles d'évaluation.
C'est complètement fou. Si une urgence médicale avec un parent te fait rater un examen, pourquoi le système fait comme si ça n'existait pas?
C'est un biais de société. On pense que la proche aidance, c'est une affaire privée ou un truc de santé publique, pas un enjeu étudiant. Et en plus, il y a la précarité des ressources.
Comment ça, la précarité?
Lors de la première journée CFTE en octobre 2024, le grand constat, c'était le financement temporaire. Le rapport donne l'exemple d'une halte-garderie au cégep de Sept-Îles qui a dû fermer.
Pourquoi?
Simplement parce qu'une subvention ponctuelle du ministère n'a pas été renouvelée. L'absence de cadre permanent rend tout ça hyper fragile.
Fait que tout tient à un fil. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour l'avenir du site? C'est quoi la solution du milieu de la recherche?
La grande demande, c'est une loi cadre provinciale.
Une loi cadre? Comme pour les violences à caractère sexuel?
Exactement. Ça forcerait légalement tous les établissements à avoir une politique CFT claire, avec un financement récurrent, peu importe leur taille. Ça standardiserait l'équité partout au Québec.
En résumé, ce que je retiens de notre analyse du rapport de TELUC, c'est que la CFT, c'est pas un caprice d'étudiants fatigués. C'est vraiment un filet de sécurité sociale indispensable.
Complètement. C'est pour garantir l'équité, prévenir la détresse et ultimement assurer le développement économique du Québec. Chaque accommodement informel qui devient un droit reconnu, c'est une victoire pour la persévérance scolaire.
Tu sais, tout ça, ça m'amène une réflexion pour clore l'analyse. À l'ère où le télétravail change tout, où l'apprentissage en ligne de façon asynchrone déconstruit nos horaires de A à Z, et la TELUC est d'ailleurs pionnière là-dedans, on devrait peut-être arrêter de concevoir nos campus pour des jeunes de 19 ans sans attache.
C'est une excellente réflexion.
Au lieu de patcher un système avec des petits accommodements, pourquoi ne pas repenser l'architecture même de nos écoles pour en faire des vrais villages intergénérationnels, où tout cohabite? C'est en pensez-y bien pour les gens qui nous écoutent.
J'aime beaucoup cette idée d'un campus village.
Merci d'avoir exploré tout ça avec moi et merci à notre auditoire de nous avoir suivis dans cette réflexion. À la prochaine!